Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La France est désormais le deuxième pays le plus touché en Europe par le coronavirus. Et quand l'Italie se barricade, le gouvernement français interdit maintenant les rassemblements de plus de 1000 personnes. Analyse des nouvelles mesures dans ce journal.
Des mesures qui ont des conséquences économiques et qui amènent à repenser la mondialisation, vous l'entendrez.
Dans cette édition, nous irons aussi en Turquie, près de la frontière grecque, où les migrants se cachent dans l'espoir de passer en Europe. Et puis en Syrie, à Idlib, reportage rare dans la ville visée par le régime de Bachar.
Et puis vous comprendrez pourquoi les femmes se mobilisent autant au Chili. Elles promettent une grève générale aujourd'hui.
Enfin, 8h16, le billet politique de Frédéric Seyss. Son thème ce matin, les municipales, la gauche et la sécurité. 19 morts en France, 1100 personnes contaminées sur une population qui atteint presque 67 millions d'habitants. Il faut savoir raison garder, certes, mais force est de constater que l'impact sociétal et économique de cette épidémie de coronavirus devient important. À partir d'aujourd'hui, en effet, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits en France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, le disait hier soir après un conseil de défense à l'Élysée.
Tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la nation. Je précise que les manifestations en feront partie, tout comme les concours par exemple, ou encore le recours aux transports en commun, qui sont des activités utiles à l'activité de la nation.
Certaines activités maintenues donc. Pour le reste, tout pourrait être a priori annulé. La France reste au stade 2, mais le gouvernement durcit sa gestion de l'épidémie, Daniel Messager.
Progressivement, le pays glisse vers des mesures plus restrictives. C'est le cas avec l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, tout en maintenant un stade 2 et des graduations faites de différenciation et de proportionnalité. Alors, ça peut paraître abstrait comme ça, mais voilà ce que ça signifie. La différenciation, c'est territoire par territoire. Certains connaissent une circulation active du virus. Il est alors normal de fermer des écoles, l'Oise, le Haut-Rhin. La proportionnalité, c'est garantir une vie sociale tout en limitant les risques. Les rassemblements non indispensables ne doivent pas être maintenus. Le glissement se fait aussi côté prise en charge sanitaire. Comme seuls les cas graves seront hospitalisés, les médecins de ville vont être en première ligne. Il faut les aider à consulter. La télémédecine va donc monter en puissance. Un décret va permettre d'assouplir son accès. Il est mis fin à l'obligation d'avoir eu une consultation physique avec le médecin dans l'année précédant une téléconsultation. Dans les hôpitaux qui devront assurer les soins des cas graves, les heures supplémentaires vont être déplafonnées, histoire de montrer au personnel que la prise en charge va être longue et fatigante et que le gouvernement l'anticipe.
Daniel Messager qui évoquait à l'instant la différenciation en fonction des foyers de contagion. Ce matin, plus de 300 000 élèves n'auront pas cours dans leur établissement. Ceux qui se situent à Ajaccio, en Corse du Sud, dans l'Oise et dans le Haut-Rhin. Des cours à distance vont être mis en place via la plateforme du CNED. Une situation synonyme d'inquiétude, évidemment, pour les parents d'élèves, surtout ceux en terminale qui doivent passer le baccalauréat. Comme en témoigne Florence Claude-Pierre, présidente de la FCPE dans le Bas-Rhin.
Ils sont très inquiets pour ceux qui vont passer des examens cette année. Il y a pas mal de notions qui vont pouvoir être révisées, qui vont pouvoir être revues par ce biais-là. Et pour les nouveaux apprentissages, ça me semble être compliqué, même pour ce qui est des bacheliers. Il y a des langues, il y a des spécificités. Voilà, il y a plein de choses comme ça où les questions se posent. C'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça dure plus que les 15 jours. 15 jours, ça fait déjà beaucoup pour une année d'enseignement.
C'était Florence Claude-Pierre, présidente de la FCPE du Haut-Rhin, interrogée ce matin par Camille Revel. Alors la situation est la même, mais elle est décuplée en Italie. Plusieurs régions du Nord sont placées en quarantaine, parmi lesquelles la Lombardie, la plus peuplée et la plus riche du pays. Les déplacements sont limités pour près de 16 millions de personnes dans le pays. L'Italie, qui est maintenant le pays le plus touché au monde après la Chine. En 24 heures, 133 nouveaux décès ont été recensés dans le pays. En Europe encore, un pays a vu le nombre de contaminations bondir également ce week-end. Il s'agit de l'Allemagne avec 902 cas avérés. Cela inquiète le gouvernement, Nathalie Versieux.
Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a pour la première fois recommandé d'interdire tout rassemblement de plus de 1000 personnes dans le pays. Sa marge de manœuvre est toutefois limitée du fait du fédéralisme. Demandez-vous au cours des 3 ou 6 prochains mois si vous ne pouvez pas renoncer à ce qui vous semble aujourd'hui si important, que ce soit une fête d'anniversaire en famille, une soirée en discothèque ou la réunion de votre association, exhorte le ministre, inscrivant ainsi l'épidémie dans la durée. Les milieux d'affaires adoptent eux aussi des plans de plus en plus drastiques, avec recours au chômage partiel ou au télétravail. À Francfort, la BCE a demandé à ses 3700 salariés de rester à la maison ce lundi pour tester son plan d'urgence en cas de confinement lié au virus. La compagnie allemande Lufthansa, convaincue qu'il faudra attendre des mois avant de voir les premiers signes de stabilité, veut recourir au chômage partiel, mesure qui implique l'aide de l'État qui prendrait en charge une partie des salaires. Le nombre des cas détectés a fortement augmenté ces derniers jours, aussi du fait d'une multiplication des dépistages après un début chaotique lié à une pénurie de tests.
Et vous venez de l'entendre, après les conséquences sociétales, nous en venons naturellement aux conséquences économiques. Les annulations en cascade des événements et des déplacements freinent la croissance mondiale. Le coronavirus ébranle les marchés et fait chuter les cours. Pour l'économiste Dominique Plion, c'est l'occasion de s'interroger sur notre modèle économique.
On constate à l'occasion de la crise que nous sommes beaucoup trop dépendants, la France en particulier, de nos échanges extérieurs. Et par exemple, nous importons une proportion importante ou une partie importante de médicaments ou de produits liés à la santé. Eh bien, je pense que c'est l'occasion, dans ce secteur de la santé, mais dans d'autres aussi, de décider de relocaliser l'activité économique en France pour retrouver, disons, une autonomie. Là, il y a une question de sécurité sanitaire, éventuellement sécurité alimentaire. Ça pose la question de la mondialisation. On est allé trop loin dans les échanges et l'ouverture internationale. Et quand il y a des crises ou des problèmes comme ceux qu'on vit aujourd'hui, celui qu'on vit aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres demain, hein, de nature un peu différente, eh bien, on est très vulnérable. Donc, ça doit reposer le problème de quel système économique nous voulons, quel est son degré d'ouverture et son degré de dépendance par rapport aux échanges internationaux.
Des propos recueillis par Lina Tagui pour France Culture. J'ajoute que ce lundi, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, doit recevoir une 50aine d'acteurs du secteur à Bercy. Et puis en bref encore, précisons qu'à la crise du coronavirus s'ajoute une guerre des prix sur le pétrole. L'Arabie Saoudite et la Russie n'ont pas réussi à trouver un nouvel accord d'encadrement de la production, alors que la consommation de pétrole s'effondre. Riyad annonçait hier baisser ses prix de vente. Le nombre de contrats à terme a ainsi chuté de 20%.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est attendu à Bruxelles ce lundi.
Oui, il doit évoquer avec les représentants de l'Union européenne le conflit syrien et les questions migratoires. Il sera notamment question des centaines de migrants massés à la frontière grecque depuis près de 2 semaines après les menaces d'Ankara. Ils sont coincés entre la Turquie et la Grèce. Notre envoyé spécial est d'ailleurs arrivé hier dans la ville d'Edirne, hier soir. Soir donc, Nathanaël Charbonnier nous raconte.
Tout semble avoir été pensé pour les journaux télévisés, pour donner à l'Europe cette illusion et ces images de vagues migratoires bloquées à sa frontière grecque. D'ailleurs, ils sont impossibles à approcher, ces migrants. Même si tout le monde parle de quelques milliers d'hommes et de femmes, il y aurait des Afghans, des Syriens, des Marocains. Tous auraient été amenés en bus principalement et tous seraient coincés dans une sorte de no man's land entre la ville turque d'Edirne et la frontière qui se trouve à quelques kilomètres. Des migrants piégés par les promesses du président turc qui leur a fait croire qu'ils pourraient enfin rejoindre l'Europe alors qu'il n'en est rien. Des migrants invisibles que personne ne peut approcher sauf quelques médias sélectionnés, mais des migrants qui jouent parfaitement leur rôle. Ils sont là pour effrayer l'Europe, mais aussi pour détourner l'attention alors que la guerre en Syrie a fait ses premières victimes dans les rangs de l'armée turque. En tout cas, à Edirne, vous ne trouverez pas un seul migrant dans les rues où la vie continue comme si de rien n'était.
C'était Nathanaël Charbonnier. Alors que cette nuit, le gouvernement allemand annonçait qu'une coalition de pays volontaires de l'Union européenne envisageait de prendre en charge des enfants migrants, jusqu'à 1500 enfants actuellement bloqués sur les îles grecques. Mais au départ, d'où viennent ces réfugiés? De Syrie, pour beaucoup, et plus précisément d'Idlib ces derniers mois. Une région pilonnée par le régime de Bachar el-Assad. Un cessez-le-feu tient depuis vendredi dernier. Notre envoyé spécial Aurélien Colli a pu entrer dans cette province. traverse et s'enfoncer jusqu'à la ville même d'Idlib. Écoutez.
Il y a 10 ans, le stade d'Idlib était synonyme de sport, de jeu, de vie sociale. Ses sous-sols accueillaient des équipes, abritaient des salles de gym. Aujourd'hui, c'est le refuge de centaines de déplacés, sous les gradins, dans les coursives, où s'entassent des familles complètement démunies. On ne pouvait pas imaginer ça. Le plus difficile pour moi, c'est d'être loin de mes enfants, de ma maison, de mon village, confie Samira, 76 ans, qui ne peut retenir ses larmes. Ses 3 fils sont morts, ses 3 filles sont réfugiées au Liban et en Jordanie. Elle ne les a pas vues depuis 7 ans. Le régime a utilisé 2 types de bombardements. Le premier pour terroriser les civils et les pousser à partir, en visant les boulangeries, les écoles, les hôpitaux, les services publics. Et le deuxième par pure revanche, en bombardant à l'aveugle, explique Abdul Razak de l'ONG Violette, l'une des dernières à opérer à Idlib pour aider ses familles éclatées, ses mères exténuées qui doivent gérer des enfants qui n'ont connu que la guerre, des Syriens qui ont tout perdu, mais pour qui il est impensable de rentrer chez eux pour repasser sous la coupe d'un régime qu'ils ont voulu changer et qui les a tués, torturés, brisés ou disséminés.
C'était Aurélien Colli depuis la région d'Idlib en Syrie. Aurélien qui signait ce matin le reportage de la rédaction à 7h24 que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr. Les femmes ont manifesté en masse hier au Chili pour la Journée internationale des droits des femmes. 1 million de femmes ont marché dans ce petit pays d'Amérique latine de seulement 17 millions d'habitants. Elles ont défendu leurs droits et plus largement leurs revendications sociales. Justine Fontaine était à Santiago.
L'État oppresseur est un macho violeur. Le violeur, c'est toi. Au beau milieu de l'Alameda, la gigantesque avenue qui traverse le centre de Santiago, des manifestantes chiliennes reprennent les paroles de la performance du collectif Lastesis, qui a fait le tour du monde à la fin de l'année dernière. Susana Olmedo, 37 ans, est venue manifester avec une amie. Mon compagnon est resté à la maison pour cuisiner. J'espère qu'il va préparer un bon petit plat, dit-elle. C'est lui qui garde notre fille. C'est vraiment important que nous puissions avoir notre espace ici, nous les femmes, pour manifester et dire que nous ne voulons plus d'abus, ni de viols, ni de femmes tuées, que nous méritons d'être respectées, explique-t-elle. L'avenue déborde de femmes, les rues adjacentes aussi, et sous la chaleur écrasante de la fin de l'été austral, les manifestantes alternent entre slogans féministes et slogans contre le gouvernement. Pour Barbara Smock, 30 ans, venue avec sa femme Déborah, le mouvement féministe est indissociable du mouvement social. Les plus grandes inégalités aujourd'hui sont celles qui touchent les femmes. Le machisme traverse toute la société, dit-elle, et le féminisme est de plus en plus fort dernièrement. Il rejoint les revendications du mouvement social et prend encore plus de force. C'est vraiment magnifique, se réjouit-elle. Les Chiliennes continueront de se mobiliser ce lundi avec une grève générale des femmes et de nouvelles manifestations dans les grandes villes du pays.
Grève générale qui s'annonce également très suivie aujourd'hui au Mexique, où plus de 3800 femmes ont été tuées l'année dernière. Des femmes qui marchent, il y en a eu beaucoup un peu partout dans le monde hier, notamment en France. Elles étaient des milliers à Paris, dans le calme et sous la pluie. Nous en venons à cette mobilisation dans le Lot-et-Garonne, autour du lac de Caussade. Il s'agit d'une retenue d'eau illégale qui irrigue une 30aine d'exploitations agricoles dans la région de Villeneuve-sur-Lot. La préfète l'estime dangereuse. Elle demande sa vidange, mais les agriculteurs empêchent les forces de l'ordre de s'y rendre depuis ce week-end. Un dossier brûlant à Anne-Lorchois.
Cette retenue de Caussade doit permettre de réabonder un ruisseau à sec pendant l'été et donner à une 30aine d'exploitations alentour la possibilité d'irriguer pendant la saison sèche. Mais elle a été construite illégalement. La Chambre d'agriculture, émanation du syndicat agricole majoritaire dans la région, la coordination rurale, fait valoir que l'État avait pourtant bien permis 3 mois durant la construction de cette retenue avant de retirer son autorisation. Une décision qualifiée de politique dans le contexte alors tout récent de la bataille autour du barrage de Sivens et la mort de Rémi Fraisse. Les agriculteurs locaux, dont une partie compte sur cette retenue pour diversifier leurs exploitations, avaient donc décidé de construire tout de même, et par leurs propres moyens, cette retenue qui depuis plusieurs mois se remplit, et se remplit d'ailleurs plus vite que prévu. Et c'est bien l'illégalité de cette construction qui pose problème aujourd'hui. Les services de l'État estiment en effet que la sécurité de l'ouvrage n'est pas garantie, qu'un risque de fissure existe, et que dans le cadre notamment d'une crue décamillénale, plusieurs habitations alentour courent le risque d'être touchées. La lettre de la préfecture, en ce sens, envoyée il y a quelques jours à tous les acteurs du dossier, réclame une vidange de la retenue et elle a remis le feu aux poudres. Car si cette vidange n'est pas faite, alors l'État menace d'engager des travaux d'office aux frais de la Chambre d'agriculture. Cette dernière n'a pas tardé à réagir et avec elle, l'ensemble des élus locaux du département, y compris les candidats à la mairie d'Agen, toute proche. Ils font savoir en substance que toute action par la force ordonnée depuis Paris sera empêchée. Une réunion entre eux et la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon sur ce sujet aura lieu demain mardi.
Et d'ici là, une mobilisation est donc prévue aujourd'hui. Plus largement, vous pouvez retrouver le grand reportage de la rédaction d'Anne-Laure Chouin sur la guerre de l'eau entre agriculteurs et riverains. Il est en ligne sur notre site franceculture.fr. Des averses et des éclaircies, voilà la météo du jour sur notre territoire. 8 degrés ce matin à Paris et à Lille, 9 à Strasbourg, Rennes et Lyon. Et puis comptez ce matin 12 degrés près de la Méditerranée.